Didier Allouche, bonjour.
Bonjour.
Alors, très heureux de vous revoir à Cannes. Tu dis, il y a quelques mois, on était à Paris, mais enfin, voilà, ça bouge quand même.
On n'arrête pas de se croiser.
Alors, Cannes, c'est... Quelle est la 30e édition ?
Alors, c'est ma 39e édition. Premier Cannes, c'était en 1986. Et j'avais 18 ans, 19 ans, je sais plus. Et j'étais étudiant ici et je venais avec des potes. On louait un appartement de 2 pièces, on était 7 ou 8 dedans, et c'était extraordinaire, on voyait 8 films par jour, à l'époque il y avait des films toute la nuit en plus, donc on n'arrêtait pas, on faisait la fête, on parlait tout cinéma, c'était un bonheur absolu. J'écrivais dans des tout petits magazines, des fanzines comme on disait à l'époque, des trucs amateurs, et puis maintenant je travaille un peu plus ici.
Non, et puis entre temps il y a quand même eu les marches, que c'est quand même un beau...
Il y a eu
quelle évolution quand même, hein.
Quasiment 20 ans de, enfin 15 ans, 17 ans de marche. Je présentais les marches pour Canal Plus à la télé tous les soirs en direct. 3 marches par jour. C'était extraordinaire. C'était vraiment génial. Ce qu'on peut faire de mieux ici à Cannes. Si jamais ça vous arrive, faites-le. Et puis après, ça s'est arrêté puisque Canal Plus a perdu le contrat. Mais j'en garde un souvenir merveilleux et j'ai tendance à dire j'ai tout fait à Cannes. Et j'ai même été dans un film une fois. Cannes, je me sens chez moi, quoi.
Mais sans vous lancer des fleurs et sans pot de fleurs, on peut quand même dire que quand vous êtes sur les marches et vous accueillez les gens, vous connaissiez votre sujet quand même.
Puis je travaille, quoi.
Non, mais c'est pas toujours le cas.
C'est un truc très bête. C'est que moi, je suis un passionné. Je suis comme vous. J'aime le cinéma. C'est ma passion depuis toujours. J'ai une chance extraordinaire. Nous avons une chance extraordinaire. On a fait de notre passion notre métier. On parle de ce qu'on aime. On n'a jamais l'impression de vraiment travailler, même si on est crevé à la fin du festival et qu'on est par terre. Mais on est là où on aime. C'est cette phrase, je sais plus qui disait, que si tu fais ce que tu aimes, t'auras jamais vraiment l'impression de travailler. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a envie d'aimer, ce qu'on a envie de défendre. On a un petit côté de croiser, on a envie d'aller en bataille pour les films qu'on aime, pour les artistes qu'on adore, et je sais que c'est le cas pour vous aussi, et je sais que vous avez envie de vous battre pour les films que vous aimez. On est à fond là-dedans. Donc pour moi, oui, bien sûr, je bosse, évidemment, je vois tous les films, je travaille sur les bios, les filmos et tout ça de tous les gens que j'interview. Mais c'est surtout, je suis dedans depuis que je suis petit, quoi. On est des obélix. Nous, on est tombé dans la potion magique quand on était petit, donc on n'a pas besoin d'en reprendre souvent. Et oui, bien sûr. Donc la passion, elle est toujours là. Elle sera toujours là. Je pense que je peux dire sans grise qu'elle sera avec moi toute ma vie. Donc oui, j'espère que ça se voit quand je parle à la télé, quand je parle dans le poste ou quand j'écris des articles là-dessus. Et j'espère que ça se sent. J'espère que je la transmets surtout. Et j'espère que je la transmets aussi aux gens à qui je parle, aux talents, aux metteurs en scène, aux acteurs, aux actrices avec qui je parle. J'ai l'impression, je le cherche jamais, c'est bien juste naturellement, quoi. Quand je parle de cinéma, je deviens quelqu'un d'autre.
Modérateur, c'est important comme...
Alors.
Depuis
quelques années, je fais donc des modérations de masterclass, de conférences de presse, ici à Cannes et dans d'autres festivals aussi. C'est vraiment génial. C'est top. C'est vraiment un truc que
c'est la cerise, j'aime beaucoup.
Oui, c'est exactement ça. C'est le petit bonus. On se retrouve face à des talents, surtout ici à Cannes, complètement incroyables. Cette année, j'ai fait Tom Cruise, et Christopher McQuarrie. L'année dernière, c'était Meryl Streep, George Lucas. Enfin bon, on pourrait revenir en arrière. Il y a des noms incroyables. Et on a ce que, vous savez, dans notre métier, on n'a plus aujourd'hui des interviews en longueur. C'est-à-dire qu'on va leur parler pendant une heure et demie, parfois 2 heures. Je me souviens qu'avec Javier Bardem, on était resté 2 heures et demie. On devait faire 3 quarts d'heure. Il avait joué le jeu à fond et on parle. C'est vraiment quelque chose qui est formidable. Et puis en plus, on a un public. En général, ce sont des jeunes, des étudiants de cinéma ou en tous les cas des passionnés. On partage ça avec eux. On leur offre ça. Et moi, mon boulot, c'est d'être le passeur entre le talent et le public qui est là et ceux qui écouteront les conférences de presse ou les masterclass après. Et j'essaye d'être à la hauteur de ça. J'ai envie de pouvoir ouvrir la carrière, l'histoire et le talent de l'artiste que j'ai en face de moi au public qui est là. J'avoue que j'adore ça. C'est un truc que ne passez pas. Dans notre métier, rencontrer les gens, on fait ça pour ça. On est là pour ça. On fait ça pour rencontrer les gens qu'on admire. Pour nous, c'est les gens de cinéma, mais ça peut être autre chose. C'est le Graal, quoi. C'est extraordinaire.
Vous vivez depuis 95 à Los Angeles.
96, exactement.
96.
Ouais.
Ça change une vie de passionné, ça?
Alors,
vous y attendiez que vous allez rester aussi longtemps?
Non, pas du tout. Je suis parti en 96. J'étais embauché par Canal+, la chaîne de télé à l'époque. Très franchement, moi, je travaillais dans un magazine de cinéma qui existe toujours, qui s'appelle Mad Movies et qui est un excellent magazine de cinéma fantastique. Je fais de la pub aux copains. J'ai été découvert par le rédacteur en chef du journal du cinéma à l'époque, qui est François Cognard et qui est maintenant producteur de cinéma. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à Los Angeles pour nous et de devenir notre correspondant? Je dis, ah ouais, évidemment. évidemment. Je me suis dit, ça durait 2-3 ans et je rentrerai. Et ça fait presque 30 ans que ça dure maintenant. Donc, quand on aime le cinéma, quand on aime le cinéma américain comme moi, c'est la Mecque, quoi. C'est ce que je dis toujours. À Los Angeles, on a souvent des projections dans les studios même, à Fox, chez Warner, à la Paramount. Et à chaque fois que je passe la porte du studio, j'ai un frisson dans le dos, quoi. J'ai les poils qui se hérissent et c'est vraiment. Je dis toujours que le jour où j'aurai plus ce petit frisson dans le dos, je rentrerai. Mais 30 ans après, il est toujours là. Et il est toujours bien, bien là. Et on y est, quoi. On est dans l'endroit où ça s'est fait, où ça se fait. Et même si c'est compliqué en ce moment, ça reste quand même la Mecque du cinéma.
En parlant de projection presse en studio, j'ai eu la chance en 80 lors de mon premier séjour de me trouver à la Burbank et de rentrer donc dans ces. On n'était pas nombreux, j'étais assez surpris d'ailleurs. C'est assez incroyable.
Non, c'est très très rare. Enfin, c'est pas rare, mais c'est parce que maintenant avec les questions de sécurité et tout ça, c'est quand ça devient compliqué de rentrer dans les studios. Donc il faut montrer pas de patte blanche. Il faut c'est vous savez comment c'est quand on deal avec ces choses là, mais c'est un petit privilège. Oui, il faut le dire comme ça et pardon, hein, oui, on est des privilégiés et on n'a pas grand chose, juste ça. Et oui, non, c'est un vrai privilège, c'est vraiment génial. On n'est pas beaucoup. Allez, attends, ils font de temps en temps des grosses projections de presse ou des soirées, trucs comme ça dans les studios et là il y a un peu de monde, mais c'est assez rare et c'est oui, non, c'est un vrai privilège, c'est un vrai bonheur
Et alors, par contre, ce que j'avais été qui m'avait interpellé, c'est rencontrer des jeunes aussi passionnés que moi, qui étaient des correspondants étrangers et qui finalement travaillaient pour des dizaines de médias, parce qu'il faut quand même vivre aussi à Los Angeles. Et finalement,
Alors nous, on a eu la chance d'arriver à une époque dans ce métier où on pouvait vivre de notre métier en travaillant que pour un seul média. C'est-à-dire que moi, pendant des années, je travaillais que pour Canal+, et ça allait très bien. Ensuite, les choses se sont un peu compliquées. Je me rappelle, tout vous raconter, nous faisons l'interview à l'intérieur du palais du festival et il y a du bruit partout. Donc oui, et les choses ont changé. Notre métier a changé. Notre métier change tout le temps. C'est plus compliqué pour avoir une carrière dans un seul média. C'est plus compliqué pour s'en sortir. Donc, on est obligé de multiplier les clients. En gros, pour en travailler pour des journaux, pour des sites web, pour des radios, des télés. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils le savent, c'est-à-dire qu'ils savent qu'aujourd'hui on ne va pas réussir sa carrière en ne travaillant que dans un journal. On peut pas faire sa carrière en travaillant au Monde toute sa vie. C'est pas vrai. On peut travailler au Monde, mais pour s'en sortir, il faut aussi travailler sur des sites web, il faut aussi travailler pour des chaînes de télé, il faut aussi travailler pour tout. Donc ils le savent, ils prennent tout ce qui passe. Mais c'est pas important, parce que je crois par contre que si la manière de travailler a changé, la raison pour laquelle on fait ce métier, la raison pour laquelle on fait ça, c'est toujours la même. C'est parce qu'on aime le cinéma, c'est parce qu'on est passionné. Tous les petits jeunes dont vous parliez là, je les connais et je leur parle tout le temps, c'est des copains. Ils viennent me voir comme le petit vieux, là. Je leur donne des conseils et je leur donne avec grand, grand plaisir, parce que on sent dans leurs yeux que c'est là, quoi. On sent que la passion, l'amour du cinéma, c'est là et si on peut partager, si on peut aider, évidemment.
Alors, les mythiques junkets, est-ce qu'ils sont pareils depuis vos débuts et est-ce qu'ils sont devenus... Le Covid est passé par là aussi, non?
Les junkets, c'était... Alors, pour expliquer aux gens ce que sont les junkets, ce sont ces week-ends de promotion que font les studios, qu'organisent les studios autour de la sortie des films, où on se retrouve tous dans des hôtels à Los Angeles ou à New York. Il y avait beaucoup de ça avant.
Et avant, c'était carrément dans des paradis aussi.
Ah oui, il y avait aussi des voyages à Hawaï, des voyages... On allait partout. C'était très sympathique, c'était très agréable. C'était une bonne affaire pour les studios aussi, puisque en un week-end, ils faisaient la promo du film dans tous les pays du monde. Mais voilà, le Covid est passé par là et tout a changé. On a commencé à faire ce que moi j'appelle les Zoomquettes. C'est-à-dire qu'on fait des interviews de Zoomquettes, mais en Zoom. Alors, à l'époque, on pouvait pas voir les gens, donc on restait chez nous. Et les studios ont découvert une chose très claire, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'un Junket, un Zoomquette. On est tous chez nous, ça leur coûte 10, 15, 20 fois moins cher que d'inviter tous les journalistes à droite à gauche. Donc, ça s'est perpétué, c'est devenu quasiment la norme aujourd'hui, des interviews dans notre bureau, pardon, avec les en pyjama et puis une chemise pour faire propre à l'image. Et on fait l'interview des talents. Alors, les interviews sont toujours là, mais la rencontre n'est plus là, donc c'est plus le même rapport. Alors, ça commence à rebouger dans l'autre sens aujourd'hui. Il commence à y avoir d'autres junkets en présentiel, en réel. Mais c'est surtout pour les très gros films. C'est surtout quand ils ont beaucoup de budget promo. Et pour le reste, pour les plus petits films, pour les plus intéressants, on va dire, ça reste quand même beaucoup par Zoom. Et ni vous, ni moi, ni personne n'aimons ça. Mais on n'a pas le choix, donc on le fait.
En parlant justement de super production, avant de venir à Cannes, vous étiez à Londres, et c'était pas un touriste.
Non, je suis passé à Londres pour faire le junket de Mission Impossible, surtout pour voir le film en fait. Parce que, alors en fait, il a été très difficile d'avoir ce film-là, donc on l'a vu très très tard. Et je suis passé, je me suis arrêté sur la route de Cannes pour faire l'interview des acteurs sur Mission Impossible pendant 2 jours
voilà.
À Londres. C'était très agréable, c'était très beau. Et c'était un week-end très sympa. Et je suis arrivé ici, ça m'a permis aussi, puisque j'ai fait la masterclass de Christopher McQuarrie ici, avec la surprise de Tom Cruise au milieu. Ça m'a permis aussi de faire un premier contact avec McQuarrie, que je l'avais rencontré une fois, mais pas vraiment. Et du coup, on a établi une petite relation là-bas et on s'est retrouvé ici. La glace était brisée avant même de commencer, donc ça a fait gagner du temps et du coup on a pu démarrer l'interview très vite. Donc c'est ça qui était bien aussi dans les junkets d'avant, c'est que on était au même endroit que les talents, on était avec eux, on n'avait pas d'échanges vraiment, parce qu'on était vraiment très séparés que ça. Mais on les croisait, on était dans les mêmes couloirs, on se disait bonjour, les visages, ils nous remettaient, ça permettait de créer un lien plus facile. Et bien sûr, on fait ce métier pour le cinéma, bien sûr, on fait ce métier parce qu'on aime ça, mais on est des journalistes et la rencontre et le lien, c'est quelque chose qui nous importe, qui est vraiment quelque chose d'essentiel dans notre métier. Et vous voyez, là, on fait une interview, on est assis sur des marches et ça se passe très bien parce qu'on se connaît. Quand on fait une interview par Zoom, ce serait pas pareil, quoi. Et c'est pareil, même au niveau de très haut talent, même au niveau de grandes stars, quand ils voient les gens, bah, ils les remettent, tout simplement, et ils savent qu'on fait l'effort d'aller jusqu'à Londres pour voir leur film, donc ils donnent un peu plus. Et c'est important, c'est ce lien qui est important. Alors oui, on fait ce métier parce qu'on aime le cinéma, mais on aime aussi les gens, je crois, non?
Ouais. Alors, en parlant de Tom Cruise, vous étiez aussi au junket de Top Gun, Maverick, sur un porte-avions, non, de Bersa?
Ouais, absolument. C'était à San Diego. C'était la première du film sur un énorme porte-avions, qui était à quai, qui était, évidemment, sur le port. Et c'était gigantesque. Mais c'était, vous voyez les pistes d'atterrissage des porte-avions. Je sais pas si vous en avez déjà vu, si vous êtes déjà allé, je crois qu'il y en a un au Havre, qu'on peut visiter. Et c'est gigantesque. Et c'était un immense tapis rouge qui était déroulé là-dessus, sauf au bout. Parce qu'il fallait laisser de la place pour l'hélicoptère de Tom Cruise qui allait atterrir. Voilà, monsieur est arrivé avec son hélicoptère qu'il pilotait lui-même et il a atterri au bout du porte-avions et il est sorti de son hélicoptère et il a fait tout le tapis, il a pris des photos avec tout le monde, il a fait tous les selfies, il a donné des interviews à tous les journalistes. Ce Tom Cruise a ce côté très démocratique, il parle à tout le monde. C'est-à-dire soit il ne fait rien pendant la promo, soit s'il le fait, il fait tous les journalistes du tapis. Donc ça dure une heure et demie, 2 heures, mais il parle à tout le monde et là on l'a fait en interview. Et ensuite, là, c'est pareil. Quelques jours plus tard, j'étais à Cannes et je faisais la masterclass de Tom Cruise sur Top Gun Maverick. À l'époque, c'était en 2022.
Est-ce que ce sont des gens qui sont physionomistes ou ils ont de bons assistants avec des fiches? Il le dit, ça, c'est Monsieur Canal, ça.
Alors, je sais pas ce qui est sincère ou pas. Je sais juste.
Les Américains, quand même,
Oui, oui, ce côté. Il a un attaché de presse, il a le publiciste qui le tient comme ça, elle s'appelle Amanda, elle est charmante, mais elle le tient quand même comme ça, et elle lui dit, ça c'est ça, et ça c'est ça, et ça c'est lui, ça c'est lui. Mais au bout d'un moment, on les connaît, au bout d'un moment, on se reconnaît, on n'est pas copains, on va pas manger ensemble à Beverly Hills, hein, mais on se connaît, et puis vous êtes un journaliste comme moi, vous parlez que de cinéma, et ça, ils adorent. Ils adorent, quand ils soupent pas sur leur vie privée, etc.
Ou leur tenue.
Leur tenue, je me suis jamais demandé à quelqu'un.
Même sur les barges,
Jamais. Moi, j'ai toujours dit à Canal, quand je faisais les Oscars, si vous voulez quelqu'un pour demander ce qu'il porte, prenez quelqu'un d'autre. Moi, je vais leur demander, je vais leur parler du cinéma, je vais leur parler de leur film, et ça, ils adorent. Ça, ils aiment, et ils sont là pour ça. Et du coup, ça crée pas une relation, mais un lien de confiance. Ils savent que je vais pas leur demander avec qui ils ont couché, je vais pas leur demander ce qu'ils ont mangé hier, je vais pas leur demander ce qu'ils portent aujourd'hui. Ils savent qu'on va parler du film, les questions sont pas toujours gentilles.
Les Européens sont quand même assez différents des Américains.
C'est sûr. Hein. C'est complètement une autre culture. Mais les questions sont pas toujours gentilles. Hein. Des fois, j'aime pas le film, des fois, je leur dis que ça, j'aime pas dans le film, etc. Mais ils savent que ça va porter sur le film, sur le cinéma, sur leur carrière, et pas sur autre chose. Et donc, ce lien de confiance est là. Je crois qu'ils l'ont un peu en tête. J'espère qu'ils l'ont un peu en tête. Et du coup, c'est plus facile. Je me fais jamais refouler à des junkets. Je les accepte toujours de me parler. Enfin, c'est comme vous, quoi. On est là pour parler de Sinoche. On est là pour parler de leur travail. Et ça, ils aiment bien. Donc oui, non, ils me connaissent pas, mais ils me reconnaissent, quoi. Parfois.
Deux événements quand même majeurs, ces dernières années à Los Angeles. Les incendies. Et récemment, Trump. Et ces taxes.
C'est une drôle de période à Los Angeles en ce moment. C'est vraiment pas facile du tout. Et ça fait vraiment que ça dure. Ça commence avec le Covid, avec les conséquences du Covid, avec le redémarrage des films en salle, qui est pas évident.
Et les grèves aussi.
Voilà, j'y arrive. J'y arrive. Donc le redémarrage des films en salle, ça a pas été évident. Bon, ça a commencé à redémarrer pour les blockbusters, mais il y a toujours des gros problèmes pour les petits et moyens films qui ont beaucoup de mal à arriver en salle. Les plateformes ont pris leur place et ces films-là atterrissent sur les plateformes. On se demande toujours aujourd'hui, sur la question qu'on ne se posait pas il y a 20 ans, c'est doit-on sortir ce film-là en salle ou aller ailleurs? Avant, on sortait film en salle, on voyait ce qui se passait, et puis il sortait en DVD, en Blu-ray, etc., etc. Il avait une autre vie après. Maintenant, on va dire que 2 films sur 3 n'ont pas la chance de connaître la salle. C'est un vrai problème. Ça a commencé au Covid, ça a du mal à redémarrer. Ça a recommencé à me reprendre un petit peu, justement, avec des films comme Top Gun, dont on a parlé, qui a reboosté les sorties salles. Et puis, boum, patatras, les grèves. Double grève des acteurs, grève des scénaristes. Et énormément de retard dans les films en production, énormément de problèmes pour mettre en place des productions, pour trouver de l'argent, pour faire ce genre de choses. Et du coup, le retard a été encore pris. La grève s'est terminée, c'est reparti un petit peu, mais le problème, c'est que c'est reparti ailleurs. On ne tourne plus à Los Angeles ou quasiment plus. Ça coûte trop cher de tourner là-bas. Donc, les productions vont tourner souvent à l'étranger, en Australie, en Afrique du Sud, ça marche beaucoup. Parfois dans des États américains, au Canada aussi. Parfois dans des États américains où les impôts coûtent moins cher, notamment en Géorgie ou en Louisiane. Mais à Los Angeles, non. Et le problème, c'est que tous les techniciens habitent à Los Angeles. C'est-à-dire qu'à une époque, ils tournaient tous là-bas. Donc, ils ont acheté leur maison là-bas, ou ils ont créé leur famille là-bas. Et ils continuent à habiter là-bas. Donc, aujourd'hui, ils doivent partir sur 8-9 mois pour des productions à l'étranger, en laissant leur famille, en laissant leurs enfants. Et c'est bien, il y a du boulot, mais c'est loin. Et la qualité de vie est pas bien. Vivre 8-9 mois dans un hôtel, même si on est bien logé, c'est pas fun. Ne pas voir ses enfants pendant quasiment un an, c'est pas fun. Et du coup, tout le monde est un peu déprimé à ce niveau-là. Et puis sur ce sont arrivés les feux, les incendies qui ont évidemment encore plus déprimé les gens, parce que beaucoup de techniciens habitent ceux qui ont le plus de succès à Pacific Palisades, puisque le quartier a été créé dans les années 70-80, au moment où ces techniciens commençaient à gagner un peu d'argent. Ils ont pu s'acheter des maisons là-bas, ils ont toutes brûlées. Ou à Altadena, pour ceux qui commençaient, c'est un des quartiers où quand on n'a pas beaucoup de sous et qu'on commence, on peut quand même trouver une maison vous pouvez trouver des maisons dans des prix raisonnables. Donc ils commençaient leur carrière, ils achetaient là-bas, et là, pouf, tout est parti en fumée. C'est vraiment... C'est et même pour ceux qui n'ont pas été touchés, on a tous des potes qui ont perdu leur maison, on a tous des copains qui sont dans une mer de noir aujourd'hui à cause de ça. Et puis perdre une maison, on le sait, c'est un deuil aussi. Donc déjà là, boum, plombé, et là-dessus Trump. Et là-dessus, des folies de notre nouveau président qui fait tout et n'importe quoi. On pensait qu'il allait laisser le cinéma tranquille, mais non. Ces annonces de tarifs douaniers, c'est de taxes douanières, pardon, on dit pas tarifs en France. C'est n'importe quoi. Tout le monde le sait bien, mais il le fait quand même. Et ça instille le doute. Ça, on se demande tous pourquoi il fait ça. On se demande tous ce qu'il cherche là-dedans. Tout le monde se tait à Los Angeles. Il y a eu des choses que les studios ont fait et qui sont vraiment pas bien. Bah, par exemple, quand Trump est passé au pouvoir en janvier dernier, ils ont tous fermé leur service diversité qu'ils avaient tous ouvert avant. Ils avaient tous un bureau diversité et sous l'influence de Trump, ils l'ont tous fermé. Disney était le premier à le faire, mais les autres ont suivi. Et ça, c'est pas des bons signes, quoi. La diversité est une question à laquelle il faut répondre d'une façon ou d'une autre. Le travail, l'aspect social de c'est un travail, c'est une industrie. Il y a beaucoup de gens qui en vivent. Il faut régler le problème et pas comme ça. Mais c'est aussi un art et à l'heure où l'Amérique s'ouvre vers les films étrangers, le monsieur qui est à Washington dit mais non, pourquoi faire, on a tout ce qu'il faut ici. Non, on n'a pas tout ce qu'il faut ici, on a besoin des autres. On vit dans un monde où on sait aujourd'hui que chacun a besoin de l'autre, que toutes les cultures doivent s'imprégner, que nous devons compter sur les autres et que les autres doivent compter sur nous, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'art. Ça, c'est le message qu'il faut envoyer. Et lui, il envoie le contraire. Et c'est troublant. C'est troublant. C'est vraiment un moment très, très troublant là-dessus.
C'est assez surprenant. Ce sont les trois papis envoyés en mission. John Voight,
Mel Gibson et Sylvester Stallone.
C'est assez surprenant quand même, non?
Oui, c'est surprenant et ça l'est pas. On connaît le penchant républicain de John Voight. On connaît les excès de Mel Gibson, on est un peu plus surpris sur Sylvester Stallone, mais bon. Et le truc, c'est qu'Hollywood n'est pas du tout républicain. Le truc, c'est qu'Hollywood déteste Trump. Et donc, il s'appuie sur les seuls qui sont encore là. C'est ces trois petits vieux qui font n'importe quoi et qui n'ont aucun sens de non, ils sont. Bah, John Voight a une carrière très étrange. C'est un peu lourd déclin. Le plus gros succès de John Voight en ce moment, c'est sa fille Angelina Jolie, qui n'est pas du tout d'accord avec son père d'ailleurs. Et puis les propositions, parce que les propositions de Trump, elles viennent de l'influence de John Voight. John Voight a écrit un papier, répond à des interviews aujourd'hui, qui part d'un bon principe. Il a envie que ça reprenne le business à Los Angeles, en Californie. Il a envie qu'on retourne là, mais. Mais les moyens qui se donnent, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut pas imposer de taxes. Il faut au contraire lâcher de l'argent. Il faut, pardon, je vais dire un gros mot pour les Américains. Il faut mettre un système de subvention en place et comprendre que pour gagner de l'argent, faut en lâcher, quoi. C'est aussi bête que ça. Pendant 4-5 ans, on dépense et puis après, le business revient dans la ville et ça remet ça fait remonter des impôts dans la ville, etc. Enfin bon, je vais pas faire un cours d'économie. Mais même moi, qui suis nul. Et vous verrez mon compte en banque, vous saurez très bien que je suis nul en sous. Je comprends le système. Donc, à Washington, ils comprennent pas ça. Et c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, les trois papis, on les aime bien. Moi, j'adore Stallone. On a fait une masterclass ici avec Stallone qui était génial. Et je trouve que Mel Gibson est un bon metteur en scène. C'est un idiot total, mais c'est un très bon metteur en scène. Mais c'est n'importe quoi. Au lieu de ça, il devrait les choses logiques, quoi. On met en place un vrai bureau où on réunit tous les économistes des studios. On essaye de voir les producteurs de la ville. On fait une espèce de réunion, de conclave, de comme vous voulez l'appeler, de Grenelle, si vous voulez. On aime bien le mot Grenelle en France, du cinéma, et on essaye de réfléchir à comment faire revenir les productions. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a des idées. Écoutons-le. Il a des idées, mais il donne pas les taxes incentives non plus, donc.
On n'est pas encore prêt à partir à Las Vegas?
Pour faire du cinéma?
Ouais, pour construire les studios et les...
Non, parce que Los Angeles, c'est mythique. Los Angeles, ça restera le berceau du cinéma, mais ça veut pas dire que ça restera la ville où on fait le cinéma. On le fait de moins en moins aujourd'hui. Alors, il y a des producteurs qui sont très attachés à la ville et qui veulent continuer à travailler là-bas, mais à un moment, ils vont se rendre compte que ça coûte vraiment plus cher que d'aller bosser ailleurs, quoi. Puis même si la production en elle-même n'est pas chère, la ville est très chère. pour manger, ça coûte beaucoup plus cher à Los Angeles qu'à Atlanta, tout simplement. Et quand on a une équipe de 100 ou 250 personnes, ben,
c'est clair.
On commence à penser à ça. Et il faut concevoir ça, il faut y réfléchir. J'aimerais bien que la réaction d'Hollywood aux grotesqueries de Trump sur les tarifs, ce soit ça, ce soit ok, c'est débile ce qu'il dit, mais asseyons-nous et réfléchissons et trouvons une solution. C'est le système Trump. Hein. Je suis pas économiste, je suis pas spécialiste de politique étrangère, mais tout ce qu'il fait, c'est de la provocation ultime pour que les gens aient peur et qu'ils trouvent des solutions raisonnables, et puis après qu'ils disent ah ben c'est moi qui l'ai trouvé. Donc c'est peut-être ça qui va se passer. Pardon, mais si jamais ça marche, si ça amène la solution, si ça ramène le boulot à Los Angeles, bon bah voilà, il faut passer par les bêtises d'un imbécile à Washington, j'ai dit ça à la radio, et bah allons-y, mais c'est très étrange. Pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est très étrange l'atmosphère à la fois à Los Angeles et en Amérique en ce moment. C'est très troublant. Le virus Trump est partout, il pervertit tout, il est dans toutes les conversations, il est dans tout ce qu'on fait. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. C'était pas comme ça le premier la dernière fois, le premier mandat. Là, c'est autre chose, parce que là, c'est vraiment vraiment partout, que ce soit beaucoup plus grave que le cinéma, hein, les questions, le social, il est partout, c'est exactement ça, c'est un rouleau compresseur, c'est un virus, c'est partout, et j'ai bien peur que ce soit bien bien plus difficile de s'en débarrasser une fois que ce sera terminé que on ne le pense. La division est partout, il réussit son truc, à ce niveau-là en tous les cas. Mon seul espoir, très très entre guillemets, c'est qu'ils se plantent complètement en économie, et la seule chose qui compte pour les Américains, c'est leur portefeuille. Ouais. Donc oui, c'est clair et net, c'est leur portefeuille, et voilà. Et que les gens, beaucoup beaucoup de gens perdent leur travail en ce moment, surtout sur la côte Est, mais ça va venir sur la côte Ouest aussi. De plus en plus de gens, malheureusement, perdent leur assurance médicale du fait d'avoir perdu leur travail et de ne plus pouvoir payer, puisque c'est encore privé là-bas. Il y a des systèmes, notamment en Californie, d'assurance médicale qui sont mises en danger aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un réveil à ce moment-là, quand vraiment les gens seront dans la merde, pardon de l'expression, et qu'ils se réveilleront à ce moment-là et qu'il y aura une réaction là-dessus. Mais c'est quand même triste d'espérer que les choses n'aillent pas pour qu'elles aillent mieux.
Didier, un grand merci et
merci.
Merci d'avoir partagé votre passion quand même.
Je sais que tu as partagé avec quelqu'un qui a la même que moi, donc il n'y a pas de problème. Et surtout, moi, j'ai un truc à dire aux gens, allez au cinéma. Allez-y, allez voir ce que vous voulez. Pensez-y, pensez-en ce que vous en voulez, mais allez au cinéma.
Et bonne suite de festival.
Merci à vous aussi.